Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux uns et aux autres, pour les personnes qui viennent notamment pour la première fois ou occasionnellement. On est vraiment content de vous voir les uns et les autres. Je vous propose que nous puissions commencer par la lecture biblique et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Donc vous avez des Bibles aux alentours. Luc chapitre 19, et nous lirons les versets 11 à 27. Donc c'est à la page 679. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. » « Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Replongeons-nous un instant dans nos souvenirs scolaires. Quel genre d'élève étiez-vous ? Alors certains sont, peut-être ça fait très longtemps, pour certains c'est beaucoup plus récent. Quel genre d'élève étiez-vous ? Quel genre d'élève étiez-vous quand le professeur devait s'absenter quelques instants de la salle de classe ? Le genre à continuer à travailler sérieusement, comme s'il était là ? Ou le genre à chahuter ? Bah, il n'est pas là, donc on en profite. Ou encore le genre à imiter le prof ? Puisqu'il n'est pas là, je vais le remplacer. À chaque fois que cette situation s'est présentée, en l'absence du professeur, d'aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu d'un côté les élèves sérieux et de l'autre les perturbateurs. Et ce sont parfois les mêmes que nous retrouvons des années plus tard sur nos lieux de travail. Quand le patron n'est pas là, les uns sont plus sérieux que les autres. Depuis que Jésus est retourné auprès du Père, nous vivons cette réalité de son absence physique. Jésus est bien là, par l'Esprit Saint, mais absent de corps. Et en son absence depuis 2000 ans, les uns se comportent d'une certaine manière et les autres d'une autre. Et dans la parabole d'aujourd'hui, qui clôture notre série sur les paraboles de Jésus à propos du royaume de Dieu, il est justement question d'un maître qui doit s'absenter et qui laisse à ses serviteurs la tâche de réaliser de bonnes affaires, jusqu'à ce qu'il revienne. Nous verrons plus tard ce que cela signifie pour nous. Dans le plan de Dieu, nous nous trouvons donc dans cette phase de l'histoire qui précède le retour de Jésus. et il ne nous appartient pas de savoir quand il reviendra. Mais nous savons avec certitude, à partir de ce que Dieu nous dit dans sa parole, qu'il reviendra. En son absence, que comptons-nous faire ? Quel genre de serviteur, de servante sommes-nous ? Eh bien, je vous propose de nous mettre à l'écoute de cette parabole que Jésus raconte. Et d'abord de nous intéresser à ce qui se passe en l'absence du maître. Pourquoi Jésus raconte-t-il cette parabole à ce moment-là, dans l'évangile de Luc ? Quelle est l'occasion qui l'amène à parler ainsi ? Si vous regardez un petit peu le début du chapitre 19, Jésus est à Jéricho. Et en fait, c'est l'ultime étape avant qu'il arrive à Jérusalem, là où il sera crucifié. Et à Jéricho, Jésus croise la route d'un petit collecteur d'impôts. Petit parce qu'il était vraiment petit. Il s'agit de Zachée, qui devait grimper dans un arbre pour pouvoir apercevoir Jésus. Et c'est à cet endroit de l'évangile que Jésus exprime la raison de sa venue. Il dit au verset 10, « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le Fils de l'homme, autrement Jésus lui-même, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la nature de sa mission. C'est pour cela qu'il est venu. Comme le disait un prédicateur, Jésus n'est pas venu pour mettre fin à toute injustice, ou pour mettre fin à la pauvreté, ou pour mettre fin à toutes sortes de d'injustice, de crime. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Quand il reviendra, il mettra fin à toute injustice. Mais sa première venue, il y a 2000 ans, il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et Jésus se dirige précisément vers Jérusalem pour accomplir, par sa mort et par sa résurrection, ce salut pour tous ceux et celles qui sont perdus. Mais à l'approche de Jérusalem, les gens qui le suivent ont une toute autre attente, comme nous le lisons au verset 11. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. L'attente du peuple à ce moment-là est que lorsque Jésus va entrer dans Jérusalem, le royaume de Dieu se manifestera de manière éclatante, de manière à écraser les Romains, de manière pleine et entière. Voilà ce que les gens attendaient à ce moment-là. Ce sera la victoire totale. Certes, le royaume de Dieu se manifestera de manière éclatante, mais pas tout de suite. Pas avant la croix et la résurrection. Et surtout, pas avant le retour de Jésus. C'est pour corriger de telles attentes que Jésus raconte cette parabole que nous étudions ce matin. La victoire totale n'est pas pour tout de suite. Le royaume de Dieu n'apparaîtra pas comme ils peuvent s'y attendre. Non. Jésus raconte cette parabole pour dire qu'il y a un délai. Il y a un temps d'attente avant que ce royaume puisse se manifester pleinement. Voyons donc dans notre parabole les éléments qui sont en lien avec l'absence du maître. Avant de partir pour recevoir la royauté, ce maître confie à chacun de ses 10 serviteurs une pièce d'or avec la mission suivante : faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Le maître attend donc de ses serviteurs qu'ils travaillent durant son absence, qu'ils fassent des affaires, qu'ils rapportent de l'argent. Et comme nous le verrons par la suite, certains n'ont pas chômé et ont réalisé des bénéfices. Je suis toujours en train de parler de ce qui se passe dans la parabole. Je ne suis pas en train de donner la signification de ce que cela veut dire. Ici, on voit bien effectivement que le maître remet cette pièce d'or à chacun et chacun doit la faire fructifier, doit faire des affaires. D'autres, ou plutôt un autre, comme nous le voyons plus tard, n'a absolument rien fait durant l'absence de son maître. Zéro bénéfice parce que zéro travail, zéro investissement. Et puis nous lisons au verset 14 que cependant, ses concitoyens, donc les concitoyens de cet homme, le détestaient. Et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » L'homme de haute naissance, l'homme noble, est parti et place à la contestation. En réalité, certains dans ce pays détestent cet homme et refusent qu'il soit leur roi. Jésus, lorsqu'il raconte cette histoire, il ne donne pas de raison à un tel ressentiment, parce qu'il n'y en a pas. Ces gens détestent cet homme sans raison. Et d'après les spécialistes, Jésus pourrait raconter tout cela avec en tête des événements qui lui sont contemporains. Il se trouve qu'à l'époque de l'occupation romaine, les membres de la famille des Hérodes devaient se rendre à Rome pour être officiellement désignés roi. Ils devaient faire ce voyage donc depuis le pays d'Israël jusqu'à Rome pour pouvoir être désignés roi. Et c'est ainsi qu'un des fils d'Hérode le Grand, qui s'appelle Archélaüs, a fait ce voyage, précisément. Il est allé jusqu'à Rome. Et selon l'historien antique Flavius Joseph, après son départ, une délégation de 50 juifs est arrivée aussi à Rome pour dire qu'ils ne voulaient pas d'Archélaüs comme roi. Autrement dit, ce que Jésus raconte ici rappelle peut-être ces faits aussi chez ses auditeurs. Oui, à l'époque, on pouvait envoyer une délégation pour dire à Rome, nous ne voulons pas de ce roi sur nous. Mais là où Archélaüs était réputé mauvais, c'est pour ça que les gens ne voulaient pas qu'il règne, là où il était réputé mauvais, il n'en est rien ici dans notre parabole de l'homme de haute naissance. Ainsi, en l'absence du maître, nous observons trois comportements distincts. Les uns obéissent à leur maître et travaillent efficacement. Un autre ne fait strictement rien et se montre de cette manière-là infidèle à ce que le maître a demandé. Et d'autres encore expriment ouvertement leur hostilité et ils rejettent celui qui va revenir roi. Un pasteur disait à propos de ce texte que cette parabole concerne toute l'humanité. Toute l'humanité est répartie dans l'une de ces trois catégories. De ce fait, nous faisons partie d'une de ces catégories. En parlant de ce noble qui reviendra pour régner, Jésus fait évidemment allusion à lui-même. Dans quelque temps, il partira et ses disciples devront vivre avec cette absence. D'ailleurs, nous vivons aussi avec cette absence. Le monde continue de tourner en l'absence de Jésus. Nous retrouvons celles et ceux qui le rejettent complètement, qui disent ouvertement « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Nous retrouvons celles et ceux qui aiment le Seigneur et qui œuvrent pour son royaume. Et nous retrouvons aussi celles et ceux qui semblent intéressés par Jésus, qui fréquentent peut-être une communauté chrétienne, mais qui ne s'engagent jamais réellement. Au fond, leur intérêt pour Jésus est superficiel. Nous faisons forcément partie d'une de ces trois catégories. En ce moment même. Bien sûr, ça peut changer, ça peut évoluer. Mais en ce moment même, nous faisons partie forcément d'une de ces trois catégories par rapport à Jésus. Et Jésus n'a oublié personne dans sa parabole. En l'absence du maître, de quel groupe nous rapprochons-nous le plus ? Malgré la contestation de ses concitoyens, l'homme de haute naissance revient cette fois-ci en tant que roi. Et en tant que roi, il est en mesure de récompenser les uns et de punir les autres. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de la parabole, au retour du roi. Le roi n'a pas oublié ses serviteurs et il leur demande compte maintenant de ce qu'ils ont fait alors qu'il était absent. Et cela nous indique tout de suite que tout ce que nous faisons ici-bas, en l'absence de Jésus, sera prise en compte au moment où nous nous tiendrons devant lui pour notre jugement. Et je mentionne à ce sujet deux versets parmi tant d'autres qui nous parlent de ce jugement selon nos œuvres. Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. « En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » Matthieu chapitre 16, verset 27. « En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. » Je reviens à la parabole. Que disent les deux premiers serviteurs lorsque le maître revient de son voyage. Ils leur disent « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté ou en a produit tant et tant. » Ses serviteurs ont pris au sérieux la gestion que leur maître leur avait confiée. « Seigneur, ta pièce d'or. Nous n'avons fait que gérer ce qui t'appartient. Nous n'en tirons aucun mérite, aucune gloire. C'est à toi. » Et ses serviteurs ont à coup sûr travaillé. Et à coup sûr, cela a porté du fruit. Et comment le maître réagit-il avec le premier serviteur? Qu'est-ce qu'il lui dit, verset 17? C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. Le maître félicite, il souligne la fidélité de son serviteur. Et si ce dernier a accompli fidèlement sa tâche pour une petite chose, gérer une certaine somme d'argent, le voilà récompensé avec une plus grande responsabilité. Le voilà comme promu gouverneur de 10 villes. Il était en train de gérer comme peut-être un comptable ou un trésorier. Et puis, il est promu et il devient gouverneur de 10 villes. Le deuxième serviteur, lui-même, est aussi récompensé proportionnellement à ses bénéfices. 5 pièces d'or, 5 villes. Et à ce stade, vous avez peut-être des questions en tête. Des questions au sujet des récompenses dont il est question ici. Est-ce à dire que celles et ceux qui auront fidèlement œuvré pour le Seigneur seront récompensés de manière différente? Certains le pensent à partir de cette parabole. Alors, comprenons bien que la récompense dont il est question ici n'est pas le salut ou la vie éternelle. Tous ceux et celles qui auront placé leur foi en Jésus-Christ auront part à la vie éternelle. Il n'est pas question de cela ici. Les serviteurs n'ont pas œuvré pour obtenir leur salut. C'est par la grâce seule de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, jamais par nos œuvres. Donc il n'est pas question ici dans cette récompense du salut en lui-même. Mais cela ne veut pas dire que nos œuvres ne comptent pas, et en particulier nos bonnes œuvres. Jésus n'est pas en train ici de donner un enseignement sur ce que seront ces récompenses. Il ne faut pas imaginer qu'on deviendra forcément gouverneur de 10 villes ou je ne sais quoi. Non, il n'est pas en train de donner un enseignement sur la nature de ces récompenses, mais il est en train de dire, oui, ces serviteurs seront bien récompensés d'une manière ou d'une autre. Nous sommes évidemment dans des suppositions. Nous ne pouvons pas exactement savoir à quoi ressembleront ces récompenses. Mais il semble quand même que sur la nouvelle terre, dans le monde à venir, nous n'allons pas rester à ne rien faire pour l'éternité. Nous n'allons pas juste être avec les anges, avec nos harpes et en train de chanter Dieu, même si c'est une très bonne activité. Il semblerait plutôt que nous aurons une activité, une responsabilité accordée à chacun selon ses capacités. Ce que nous aurons fidèlement fait ici-bas se poursuivra à une autre échelle dans le monde à venir. Nous ne ferons pas rien, absolument rien. Ce serait tellement ennuyeux. Soyons sûrs que la récompense dépassera de loin ce que nous pouvons imaginer. Soyons sûrs que la récompense dépassera de loin ce que nous méritons. Et en tout cas, de manière certaine, le Seigneur aura son mot à dire sur ce que nous aurons fait ici-bas. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. C'est bien ce que nous voyons dans notre parabole. Le maître dit à ses serviteurs, c'est bien, bon serviteur. Mais voilà qu'un troisième serviteur s'approche de son maître. Et voici ce que nous voyons dans sa manière de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il dit ? En apparence, il commence par parler comme les autres. « Seigneur, voici ta pièce d'or. » Mais la suite est terrible. Le serviteur avoue n'avoir rien fait. Il a juste conservé la pièce jusqu'au retour de son maître. Aucun investissement, aucun bénéfice, aucune loyauté. Il devait faire fructifier cette pièce d'or. Il n'a rien fait. Et regardez comment il se défend, verset 21. « En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » L'excuse de ce serviteur est que son maître lui apparaît trop dur, trop sévère. C'est un maître qui exploite les autres. Il prend ce qui n'est pas à lui. Il récupère ce qui ne lui a coûté aucune peine. Mais est-ce ainsi que le maître a agi précédemment ? Est-ce qu'un maître sévère récompenserait de manière si généreuse ceux qui ont bien travaillé pour lui ? Et de l'avis de plusieurs commentateurs, ce serviteur n'a pas en réalité un regard juste sur son maître. Il le croit dur alors qu'il ne l'est pas. Et le roi le prend au mot. Versets 22 et 23. « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère et que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt ?» Ici, le troisième serviteur est qualifié de mauvais car il n'a rien fait. Et au vu de ce que dit le maître ici, ce serviteur ne désigne pas un disciple de Jésus qui n'aurait rien fait et qui serait quand même sauvé. Non, ici, le fait qu'il soit qualifié de mauvais indique bien que c'est celui ou celle qui n'a jamais réellement été disciple de Jésus. Son cœur n'a pas changé au fond. Il n'y a pas eu de transformation dans sa vie. Il n'y a pas eu de repentance. Ce mauvais serviteur, c'est la personne qui se croit disciple de Jésus et qui ne l'est pas en réalité. C'est une personne qui n'a jamais eu l'intention de s'engager pour le Seigneur, qui n'a jamais eu l'intention de servir le Seigneur. Et effectivement, le reproche du maître est juste. Si ce serviteur avait si peur de son maître, en fait, il aurait dû faire quelque chose pour éviter la sanction. S'il avait tellement peur de la sévérité de ce maître, il aurait dû se mettre à travailler. Et le maître indique bien le geste minimum qu'il pouvait faire et qui nous est familier, déposer l'argent en banque pour générer quelques intérêts. Mais non, le serviteur a simplement rendu ce qui lui a été confié. Aucun bénéfice, zéro investissement. Et ce n'est pas du tout ce que son maître lui avait demandé. C'est là qu'il faut voir combien le maître est juste dans son jugement. Il avait demandé de faire fructifier, ce serviteur n'a rien fait, donc mauvais serviteur. Et voici donc sa sentence au verset 24. « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Ce qui étonne certains, « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. »« Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Le grand perdant de l'histoire, c'est ce mauvais serviteur. Il perd tout. Et en toute logique, il n'a rien rapporté, il finit avec rien. Par contre, le maître n'hésite pas à ajouter davantage à celui qui a déjà. C'est en quelque sorte les mathématiques du royaume de Dieu. À celui qui a, il aura toujours plus. À celui qui n'a rien, il n'aura rien. Ce qui montre une fois de plus que la récompense du Seigneur n'est pas simplement un juste salaire, un simple salaire juste par rapport au travail accompli. Parce que cette récompense ne repose pas sur le mérite. Elle va au-delà de ce qu'a fait la personne. Le maître se montre beaucoup plus généreux que simplement de rétribuer par rapport à ce qui a été fait. Et tout cela pour nous rappeler que lorsqu'on parle de récompense ici, il s'agit toujours d'une grâce du Seigneur. Cela ne repose jamais sur des mérites. Nous ne pourrons jamais venir devant le Seigneur et dire « Voilà tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu me récompenses, je le mérite. » Non, jamais. La récompense que Dieu peut nous attribuer sera toujours une grâce. Au retour du roi, certains seront récompensés, d'autres ne le seront pas, en fonction de ce qu'ils auront fait durant son absence. Et le roi n'a pas oublié les autres. ceux qui ne voulaient pas qu'il règne sur eux. Et c'est pour cela que cette parabole termine sur cette note terrible au verset 27. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Cette sentence terrible indique qu'il y aura une condamnation pour celles et ceux qui se sont dressés en ennemis de Christ. Et dans plusieurs des paraboles abordées cet été, nous avons vu que Jésus le mentionne sans détour. Il n'hésite pas à parler de cela. Et je crois bien, effectivement, que c'est une réalité qui fait frissonner. Une réalité qui ne sonne pas agréablement à nos oreilles. C'est pourquoi, si nous prenons au sérieux ce que Jésus est en train de nous enseigner, cela nous pousse à supplier Dieu pour le sort de nos bien-aimés. Si nous prenons ce que Jésus est en train de dire ici sur le sort de ses ennemis, si nous prenons cela au sérieux, cela nous pousse à supplier Dieu pour le sort de nos bien-aimés, en particulier de ces membres de la famille qui rejettent catégoriquement le Seigneur, pourvu que ceux-ci changent d'avis. Et je crois que nous ne pouvons pas nous contenter de dire c'est leur problème. Pourvu qu'ils changent d'avis avant le retour du roi. Regardons maintenant à nous, et je terminerai ainsi. Examinons-nous. Qu'est-ce que cette parabole nous dit ? Quelles paroles aimerions-nous entendre de la part du Seigneur ? Et il me semble qu'il faut mettre l'accent sur le fait que le Seigneur nous appelle à la fidélité. Cette parabole des pièces d'or ne peut pas ce matin nous laisser indifférents. Quel genre de serviteur, de servante sommes-nous ? Qu'est-ce que le Seigneur attend de ses disciples, de nous qui croyons en lui ? Dans la parabole, nous entendons le Maître donner comme ordre « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne ». À quoi peut correspondre cette pièce d'or que chacun a reçue ? Qu'est-ce que cela symbolise ? Alors j'ai lu plusieurs réponses possibles. Pour certains, ce sont les ressources, les capacités que le Seigneur a données à chacun. Pour les autres, ce sont les tâches, les responsabilités qui nous incombent. En tout cas, à tous, il est attendu que nous en fassions quelque chose avec ce que le Seigneur nous a confié. Et vous observez que ce n'est pas une compétition entre nous. Le maître est aussi satisfait quand l'un en rapporte 10 et quand l'autre en rapporte 5. Ce n'est pas une compétition. Mon propos, d'ailleurs, ne consiste pas à vous pousser à l'activisme, au surinvestissement. Parce que malheureusement, pour certains, ce surmenage, parfois même en servant simplement à l'Église, ce surmenage les mène à un burn-out. Mais mon propos n'est pas de vous encourager à cela. C'est pourquoi je ne vais pas mettre l'accent sur le rendement ou sur les résultats, mais je vais mettre l'accent sur la parole du Maître au verset 17. « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Qu'est-ce qu'un bon serviteur ? Qu'est-ce qu'un bon serviteur ? Réponse, c'est un serviteur fidèle. Qui a fait ce que son maître a demandé. C'est bien là que nous devons nous questionner ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire, d'accomplir sur la terre ? Avec les capacités et les ressources qu'il m'a données, qu'est-ce qu'il attend de moi ? Parce que je devrais rendre compte de cela. Et comment puis-je fidèlement faire ce qu'il me demande de faire ? Et je sais que la question est vaste. C'est vrai. Mais en même temps, cette question est très personnelle. Parce qu'à chacun d'entre nous, le Seigneur a donné des choses différentes. Des capacités différentes. Des responsabilités différentes. Une mission, dans un certain sens, très spécifique aussi. Bien entendu, l'Église a reçu de Jésus-Christ le mandat de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est notre mission commune. Comment nous investissons-nous dans cette mission ? En termes de temps, d'énergie, d'argent. Quel compte rendrons-nous au Seigneur à ce sujet lors du jugement dernier ? Autre question que nous pouvons encore nous poser. Ma vie est-elle tournée vers la réalisation de mes buts personnels, influencés par les ambitions de ce monde? Ou bien ma vie est tournée vers la gloire de Dieu, vers la réalisation de son plan qui me dépasse? Est-ce que je vis pour glorifier Dieu? Est-ce que son royaume est ma préoccupation première? Et ce sont des questions récurrentes à se poser, tant il est facile de se détourner de ce que le Seigneur demande dans sa parole. Et tout cela a certainement à voir avec la manière dont nous voyons Dieu. La parabole ne nous renseigne pas sur la manière dont les deux premiers serviteurs percevaient leur maître. Mais il semble quand même, au moment des comptes, qu'ils ont travaillé de bon cœur. Ils ont fait ça, sans doute avec joie. Ils l'ont fait pour leur maître. Et concernant le troisième serviteur, nous avons vu qu'il n'avait pas une juste perception de son maître, qu'il croyait ou qu'il voyait dur. Personne ne voudrait travailler pour un maître dur, sévère et qui ne s'intéresse qu'au profit. Mais le Seigneur n'est pas un tel maître. Est-ce qu'un maître dur donnerait sa vie pour nous? C'est pourtant ce que Jésus a fait. Au lieu de nous abandonner à la perdition, il s'est offert en sacrifice pour que la justice de Dieu soit accomplie. Nous devions payer pour nos fautes, pour nos péchés, pour notre désobéissance, pour notre rébellion. Mais la bonne nouvelle que nous rappelons tous les dimanches, c'est que Christ en a payé le prix sur la croix. C'est lui qui est mort pour nos péchés. C'est lui qui a été châtié, condamné à notre place. Comme le disait l'apôtre Paul, pour ceux qui sont unis à Christ, il n'y a plus de condamnation. À chaque fois que nous mesurons de nouveau ce que Jésus a accompli pour nous, nous voyons à quel point la grâce de Dieu a été grande à notre égard. C'est en voyant quel bon maître nous avons que nous voulons d'autant plus le servir. Donc cela dépend beaucoup du regard que nous avons vis-à-vis du Seigneur lui-même. Comment le voyons-nous? Bon ou dur? Voulez-vous que votre vie soit une vie de service consacrée à Jésus-Christ? Le professeur de théologie Émile Nicole écrit que la grâce du Seigneur rend possible une vraie relation de service entre nous et Dieu. La grâce de Dieu est telle qu'elle produit des résultats tangibles, qu'elle ne reste pas stérile. Je retiens ici l'expression « une relation de service entre nous et Dieu ». Et Émile Nicole qualifie même la grâce de Dieu comme étant le plus puissant stimulant au service. Dieu m'a tellement fait grâce que cela me pousse à le servir avec joie. En nous appelant à le suivre, le Seigneur nous a pris à son service. Nous qui étions esclaves du péché, il a fait de nous des serviteurs du Dieu vivant et tout-puissant. Oui, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ doit nous rappeler quel bon maître nous avons. Quel bon maître nous servons. Et c'est un rappel utile pour celles et ceux qui servent dans l'Église, à commencer par moi. Si j'ai répondu à l'appel du Seigneur en tant que pasteur, si je le sers aujourd'hui, c'est d'abord, et je dois me le rappeler, c'est d'abord par amour pour lui. C'est d'abord par reconnaissance pour sa grâce à mon égard. C'est pour cela que je le sers. Nous devons nous rappeler que c'est d'abord sa grâce qui doit nous stimuler au service, que c'est sa grâce qui doit nous stimuler aux bonnes œuvres, que c'est sa grâce qui doit nous stimuler à demeurer fidèles. Quelle tâche, quelle responsabilité le Seigneur nous a-t-il confiée ? Quelles ressources, quels dons, quelles capacités le Seigneur nous a-t-il confiées ? Quel que soit notre stade de vie, quel que soit notre âge, ce sont encore des questions à se poser. Parce que le Seigneur attend de nous que nous agissions fidèlement jusqu'à son retour. Le Seigneur vous a-t-il stimulé ce matin? Vous a-t-il encouragé à poursuivre fidèlement le service que vous accomplissez pour lui? Que ce soit dans l'Église ou dans ce monde? Vous a-t-il encouragé à œuvrer pour lui d'une manière ou d'une autre? N'attendez plus si ce matin il vous demande de vous lever pour lui. Faites fructifier ce qu'il vous a confié. Honorez-le dans chaque aspect de votre vie. Dédiez toute votre vie restante, et quelles que soient les années qu'il vous reste, dédiez toute votre vie restante à glorifier Christ qui reviendra, qui fera les comptes et qui récompensera chacun selon ses œuvres. Je vous laisse un temps de réflexion par rapport à toutes ces questions. Qu'est-ce que le Seigneur vous encourage encore à poursuivre ou à faire? Comment pouvez-vous œuvrer pour lui d'une manière ou d'une autre? Notre Père Céleste, je ne vois pas forcément ce qui se passe dans les cœurs. Enfin, je ne vois pas du tout d'ailleurs ce qui se passe dans les cœurs. Je ne sais pas quelles décisions ont pu être prises par rapport à Jésus-Christ. Mais toi, tu sais, parce que tu lis les cœurs, parce que tu sais exactement ce qui se passe au fond de nous et que les autres ne peuvent pas deviner. Et nous te prions, Seigneur, fais-nous la grâce de pouvoir être de ces serviteurs fidèles, de ces serviteurs qui ont œuvré avec ce que tu nous as confié fidèlement. Et tu nous le demandes, Seigneur, cela jusqu'au retour de Christ. Donne-nous la force de persévérer si nous avons pu nous relâcher d'une manière ou d'une autre. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir de nouveau être stimulés par ta grâce. Parce qu'à coup sûr, oui, tu nous as fait grâce. D'une manière que nous ne méritions pas. Si nous avons reçu le pardon des péchés, nous ne le méritions pas. Si nous avons reçu la vie éternelle, mais qui sommes-nous pour l'avoir mérité? Si ce n'est des pécheurs. Des pécheurs qui ont rencontré ta grâce. Alors merci Seigneur, parce que c'est en sachant quel bon maître tu es que nous voulons continuer de te servir, que nous voulons continuer de nous lever à ta suite et œuvrer pour ton royaume. Que ton royaume puisse être notre priorité, notre préoccupation première. Et à coup sûr, Seigneur, en l'absence de ton Fils Jésus-Christ, en l'absence de ton Fils, eh bien, nous voulons continuer à compter sur toi, nous appuyer sur toi pour œuvrer pour toi jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est vrai, lorsqu'il reviendra, le jugement sera prononcé pour les uns et les autres, personne n'y échappera. Et dans ce temps de ta patience, nous continuons de te prier pour les membres de nos familles qui ne te connaissent pas, qui te rejettent, qui sont hostiles à toi. Nous prions, Seigneur, qu'ils puissent changer de voie, qu'ils puissent changer d'avis à ton sujet, qu'ils puissent se rendre compte de ta grâce et qu'ils puissent ainsi être sauvé. Seigneur, c'est ton œuvre, c'est toi qui peux le faire, c'est toi qui en as la puissance, comme tu l'as fait pour nous. Et lorsque nous nous présenterons devant notre juste juge, puissions-nous entendre simplement cette louange. Bon serviteur, bonne servante. Merci Seigneur encore pour ta parole qui nous enseigne. Au nom de Jésus. Amen.